Yolami, je suis hyper contente de pouvoir enfin vous accueillir aujourd'hui dans mon tout premier podcast. C'est vrai que j'ai pris énormément de temps. J'avais pas forcément prévu tout ça. C'est allé hyper vite. C'était assez difficile de rentrer dans le tas, mais bon, voilà, je suis là aujourd'hui après 2 mois. Et j'avais vraiment surtout envie de partager quelque chose d'assez authentique, qui me ressemble, où je prenne vraiment mon temps. Et surtout où je me sente vraiment à l'aise et pas forcée de devoir faire un podcast, parce que c'est plus une partie de plaisir pour moi qu'un truc dans lequel je me lance dans, on va dire, de manière pro. Genre, c'est plus une passion et c'était sympa pour moi de me dire « Ouais, je vais faire un podcast, je vais parler de musique, je vais me poser ». Et donc, évidemment, pour ceux qui ont eu le temps de découvrir mon podcast durant ces semaines, vous n'avez pas forcément grand-chose à faire en réalité. Juste mettez-vous bien, peu importe où vous êtes, que vous fassiez quelque chose ou pas. Et avant tout, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, du coup, La Cagoule Rose, je vous conseillerais plus d'aller écouter le tout premier podcast qui est en fait le teaser, qui va un petit peu vous expliquer tout en détail. Et comme ça, vous pouvez directement rentrer et la machine sera lancée. Mais on va directement passer à la suite. Je vous avoue que niveau sélection, ça a été hyper difficile de choisir l'artiste d'aujourd'hui parce qu'en fait, j'en avais plein. J'ai une liste énorme avec plein d'albums, plein d'artistes. J'ai autant des groupes que des personnes solo. Et c'est surtout ces derniers temps que je m'étais dit « Ouais, je pensais vraiment soit à un groupe en particulier ou à un autre rappeur. » Mais vraiment, l'artiste qui a réussi à se démarquer des autres, c'est 8, qui est un artiste que je trouve bourré de talent. Il a énormément de potentiel et je vais vous expliquer du coup les raisons pour lesquelles j'ai choisi son album. Et ça, je vais vous l'expliquer plus tard. Avant, ce que je me disais qui était peut-être plus intéressant, c'est de vous présenter qui il est et qui est la personne qui se cache derrière ce mystérieux 8. C'est vrai que, en réalité, le terme mystérieux, je ne l'utilise pas forcément au hasard parce qu'en fait, en faisant mes recherches, parce que avant tout, pour que vous ayez un petit peu une idée de qui est 8, c'est un artiste que je trouve mystérieux, qui est très discret et qui est assez réservé en réalité parce qu'en fait, depuis le temps que je le suis sur les réseaux, donc surtout sur Instagram en général, ce que je voyais, c'était vraiment soit des posts hyper stratégiques. Donc soit il est au studio, il est en concert ou il partage d'autres artistes et donc c'est toujours en relation avec la musique. Et donc en fait, en réalité, on a très peu de choses sur sa vie privée, on ne sait pas comment il a évolué, mais j'ai quand même réussi à trouver des éléments sur internet, je me suis un peu renseignée, mais tout ce que je voyais en particulier, c'était beaucoup plus des interviews, que ce soit avec des médias ou avec d'autres personnes, enfin c'était vraiment très précis. Et donc du coup, j'ai un petit peu cerné le personnage, parce qu'en fait j'ai l'habitude de voir des rappeurs qui sont beaucoup dans le flex, qui se vendent beaucoup, qui sont beaucoup dans l'apparence, qui n'ont pas peur de se montrer, et justement 8, c'est quelqu'un qui ne se présente pas du tout comme ça. Il est assez réservé et je l'avais vraiment plus ressenti, surtout dans l'interview qu'il avait faite avec Mehdi Maizi dans le Code. Je pense que ça date de 2020. Et donc on voit très bien qu'en fait il est super intéressant, il est hyper précis et qu'en fait il parle essentiellement de sa musique et rien d'autre. Mais j'ai quand même réussi à vous dégoter quelques petites informations nécessaires. Donc il faut savoir que 8, de son vrai nom Fares, naît en 1996 à Montpellier. Il a, je pense, des origines palestiniennes et algériennes. C'est super important pour la suite parce que ça va un petit peu déterminer tout son champ de style de musique. Donc depuis qu'il est petit, il sera super fort passionné par le cinéma, par la musique, mais surtout par le rap, dans lequel il va vraiment commencer à s'investir vers ses 15 ans, je pense. Donc aux alentours du collège, mais je ne sais pas forcément comment ça s'appelle, parce que nous, en Belgique en tout cas, on a un système qui est complètement différent. Je pense que c'est de 12 à 18 ans, t'as les secondaires. Mais en France, je sais qu'il y a le collège et le lycée. C'est assez difficile de s'y retrouver un petit peu. Mais donc du coup, c'est à cette époque-là qu'il va plus s'intéresser à la musique et surtout se concentrer sur son évolution. Il va écrire ses premiers textes, il va un peu se chercher. Et la rencontre qui va vraiment tout changer pour lui, c'est une rencontre qu'il va faire avec Leilo, Osman Merkan et Nabil. Donc là, on est face à 3 types avec qui il va y avoir une relation assez forte dès le début. Mais évidemment, la personne avec qui il va plus se rapprocher, c'est Leilo. Il va être super complice avec lui. Je sais que dans une interview que j'avais lue, je ne sais plus si c'était Bouscapé ou Le Move, mais il avait expliqué quelque part, enfin c'était Leilo qui expliquait que quand il avait commencé à traîner avec 8, il voyait qu'il était hyper professionnel par rapport à la musique, il savait un petit peu se débrouiller, il connaissait un petit peu tous les codes, et puis Leilo, de son point de vue, il était un petit peu impressionné. Et donc on voyait déjà que dès le début, ils étaient déjà assez proches, et ils gardent encore cette relation encore aujourd'hui, et on le voit très bien. Mais donc du coup, il va se rapprocher de ces 3 types, et cette rencontre, elle va être super importante pour 8, parce qu'elle va un petit peu tout déterminer dans sa façon de voir la musique, parce qu'il va plus s'intéresser à la musique, il va plus s'investir, parce que au sein même de ce groupe, on va dire, donc Leilo et Osman Merkan, qui vont décider de monter une boîte de réalisation audiovisuelle. Enfin, ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais ce sera une boîte qui s'appellera TBMA. Je vais vous expliquer du coup pourquoi ils ont choisi le terme TBMA. En fait, ça va être une boîte qui va se charger de faire plein de clips, qui va un peu créer toute l'ambiance visuelle, que ce soit par rapport à la promo, par rapport au cover, par rapport au clip surtout, parce que je sais qu'ils ont fait plein de clips depuis quand même pas mal de temps. Ils avaient fait un clip pour Nekfeu, pour Esprit Noir avec Némir pour le morceau Mon Crew, je me rappelle, et aussi évidemment pour Laylo, pour 8, etc. Et donc c'est quand même assez construit. Et la raison pour laquelle ils ont choisi d'appeler ça TBMA, c'est parce qu'en fait c'est un acronyme pour Travis Bickle et Monsieur Anderson. Donc pour que vous ayez un petit peu en contexte, Travis Bickle, c'est un personnage qui est du coup, je pense, le centre du film Taxi Driver, qui est joué par Robert De Niro. Et c'est un film qui date de 1976, qui évoque quand même des thèmes assez durs, la prostitution, la folie, enfin bref, il y a des énigmes un peu complexes, mais le film est assez intéressant parce qu'il a une manière d'être filmé, c'est un film qui est très 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 lent, ça c'est un détail, si vous voulez le regarder, il est quand même assez intéressant, hein. Franchement je ne vais pas dire le contraire, mais quand même c'est un film qui est très lent, il y a une esthétique qui est quand même bien calculée, tout est assez maîtrisé, donc on voit très bien qu'en fait là on se situe vers plutôt du drame. Et de l'autre côté, on a MA qui tient pour Monsieur Anderson. Je ne vais pas vous faire de dessin, vous savez très bien, on nous a bassinés avec ça, je pense, en 2020, quand l'album de Laylo est sorti, Trinity. C'était clairement le film Matrix, avec Monsieur Anderson, qui est Neo, qui est le personnage principal, qui est joué par Keanu Reeves. Et c'est un film clairement culte. C'est un pilier de la science-fiction. Il a révolutionné plein de plans, que ce soit par rapport aux, on va dire, aux effets spéciaux, par rapport à l'ambiance, par rapport, aux thèmes, aux couleurs. Aux costumes aussi, franchement, parce que la mode des manteaux comme ça, super longs, qui sont en cuir noir, et puis après avec les lunettes de Morpheus, en bref, il y avait une ambiance qui était vraiment bien calculée. Et en fait, du coup, ces deux films qui sont des films cultes du cinéma américain, ils vont fort influencer, du coup, le groupe TBMA. Parce qu'en fait, c'est un groupe qui va être fort influencé, du coup, par le cinéma américain, qui va prendre plein de codes, et qui va créer vraiment des ambiances très spéciales. Et franchement, c'est ce groupe qui va un petit peu tout changer pour 8, parce qu'il va lui permettre de plus se concentrer sur son aspect visuel, pour le côté artistique et toute l'ambiance qu'il va créer autour de son personnage dans les projets qu'il va nous sortir. Donc il va vraiment plus voir ça dans une autre dimension. Mais ce qui sera encore plus génial, on va dire, dans cette rencontre en plus, c'est qu'en fait, cette rencontre, elle va aboutir sur un projet commun qui sortira en 2015 et qui s'appellera Digital Light et qui sera, je pense, le premier projet officiel entre Laylo et 8. Et qui va clairement, pour moi, un petit peu bouleverser le milieu du rap en 2015. Je m'étais quand même dit, avant de vous présenter du coup un petit extrait, de vous donner un petit peu le cadre, clairement. Là, on est face du coup à un style qui est complètement différent. On est face à de l'électro mélangé avec de la trap, avec du hip-hop, bref, ça va dans tous les sens. Vous pouvez vous dire, oui, ça peut paraître bizarre. Enfin, moi, honnêtement, quand j'ai commencé à écouter le projet, je me disais, mais enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce mélange? J'étais pas forcément dégoûtée, ni même déplu parce que j'entendais, mais c'est juste que je j'arrivais pas à me situer parce que je pense qu'à l'époque, en tout cas en 2015, si je fais un saut dans le temps, j'écoutais vraiment pas des trucs comme ça, genre tout ce qui était électro, c'était pas vraiment mon délire. Mais là, en l'écoutant maintenant aujourd'hui, avec tout ce qu'on a pu entendre, avec des mélanges électro et tout, bref, avec tout ce qui arrive, avec la two-step, je pense, qui vient de l'Angleterre, on peut être habitué à ce style de musique. Mais à cette époque-là, c'était difficile. Et donc du coup, c'est pour ça que au début, quand j'ai commencé à écouter ce projet-là, donc Digital Night, mes oreilles étaient un petit peu choquées. Mais il y a quand même un morceau qui a réussi un peu à me faire changer d'avis, et ce morceau, c'est Vide Enfoiré, qui va vraiment clairement changer la donne.
Ouais, fuck cette vie d'enfoiré. Peut-être du matin jusqu'à la fin de la soirée. Dans ce pays, je me croirais en enfer. Ouais, dans mon cercle, y'a que des tarés, des gabas affamés. Ouais, des amables amés. Je vis comme un immortel vu que mon règne est pas né. Oui, le son des damnés. La tannée sera savoureuse et je ramène ma douleur. On voit les mêmes choses, mais pas dans les mêmes couleurs. Je tape une prod et je me défoule. Ce monde est inconscient, peuplé par des fous. Ouais.
Bon, comme vous avez pu un petit peu l'entendre là, vous êtes face à quelque chose de complètement différent. Déjà, il faut savoir quand même. Je vais donner un petit peu l'intensité dès le début. On est face du coup à 8 qui débarque à toute vitesse dans cet extrait. Et j'ai fait exprès de choisir ce moment-là du morceau parce que je trouvais que on ressentait un petit peu toute l'énergie à partir de ce moment-là. Et ce que j'aimais bien, c'est que voilà, on sait très bien que 8 est fort, il le montre, il est capable. Il va vraiment pas nous présenter quelque chose de voilà de lascif ou de pas forcément entraînant. Là, il débarque, il est bourré d'énergie. Et ce que j'aime encore plus dans ce morceau, c'est qu'en fait, on ressent une forte complicité entre Laylo et 8. Ça veut dire qu'on on les voit un petit peu comme des deux gosses qui jouent, qui s'amusent. Et ce que j'aime encore plus, en tout cas, dans ce morceau-là, c'est une prod qui, malgré le côté, voilà, je vous avais expliqué, du mélange électro et hip-hop, ce qui est un peu inhabituel, c'est qu'on est face, du coup, à du cloud rap, donc une ambiance très planante, très aérienne. Et ce qui fait que, du coup, on va dire que le son passe un peu mieux, on va dire. Ce sera pas trop agressif. Et c'est sympa de voir que, voilà, dans ce morceau-là, on ressent l'énergie de Laylo. Parce que déjà, je pense que dans ce morceau-là, quand je l'avais écouté, je me disais, ouais, franchement, ça, c'est clairement ce qu'il a fait dans les projets qui ont suivi. Quand j'avais écouté Digital Lova ou encore d'autres de ses projets, on ressentait le même timbre de voix, la même énergie. Mais ce qui m'a évidemment le plus marqué par rapport à 8, c'est que malgré le fait qu'il ne se soit pas forcément fait un nom rapidement, qu'il n'ait pas sorti beaucoup de trucs, là, déjà, d'une certaine manière, il est entouré de personnes qu'il connaît. Il est entouré d'Osman Merkan, de Laylo, avec qui il fait le projet. Et donc, on va dire que là, il se donne un petit peu plus de force, vu qu'il est un petit peu poussé, quoi. Là, je me suis dit, franchement, pourquoi pas sortir un projet ? Pourquoi il ne se dirait pas d'entamer sa carrière solo ? Parce que vu que j'ai vu un petit peu le potentiel dans ce projet-là, je me suis dit, mais pourquoi il ne démarrerait pas quelque chose d'assez construit pour se focaliser sur sa carrière, quoi ? Eh bien, c'est clairement ce qui va se passer. Un an plus tard, ou même quelques mois plus tard, je pense, il va nous sortir son premier projet qui s'appellera Anaba.
Attrape le démon par la racine. La meilleure chose à venir, c'est l'anarchie. Chie sur le système avant que
t'as... Bon, je vous avoue, je vous ai un petit peu menti. Parce qu'en réalité, en 2016, donc l'année où 8 a démarré sa carrière solo, il avait sorti deux projets. Donc le premier projet qu'il avait sorti en tout début d'année, je pense, c'était HFS, qui est vraiment un projet qui se rapproche vraiment niveau ton de l'électro, du coup de son projet avec Laylo Digital Nights. Et donc je trouvais ça pas forcément cohérent de redémarrer avec les mêmes idées. Et je préférais largement directement passer à Anaba, parce qu'il y avait énormément d'éléments que j'avais envie de vous présenter. Alors là, on entre dans la phase 1 de l'évolution de 8. Quand je dis phase 1, c'est parce qu'en fait, tout va prendre son sens après. Il faut savoir qu'en fait, dans ce projet, on est face à des styles complètement différents. Donc ça veut dire que là, on était face à de l'électro avec du hip-hop dans son, dans son premier projet de manière officielle. Mais là, dans sa carrière solo, 8 va vraiment plus se concentrer sur lui, et du coup sur ses inspirations personnelles. Et quand je dis personnelles, c'est parce que ça prend tout son sens. Parce que dans Anaba, on est clairement face à un mélange inhabituel entre du rap des années 90 mélangé avec des sonorités orientales. Et quand je vous avais dit qu'il était d'origine palestinienne et algérienne, et que ça prenait tout son sens après, c'est parce qu'en fait, ici, il a su utiliser, du coup, les musiques de ses origines pour en créer un mélange assez intéressant. Et donc, dans l'extrait que je vous ai présenté là, vous aviez le premier, je pense que c'était le premier morceau de son projet qui est super court, ça j'ai oublié de le préciser, c'est que c'est un projet qui dure 14 minutes, il n'y a que 4 sons, donc vraiment, tout se passe très vite. Et donc, ça commence directement avec le premier morceau qui s'appelle Tonton du Bled Remix, et c'est en fait un remix du morceau Tonton du Bled, qui est un morceau du 113 avec, vous connaissez, avec Rimka, avec Mokobé. Et donc, il a voulu un petit peu réutiliser ce son-là. Et je vous avoue que moi, quand j'avais écouté ce son, j'avais l'impression de l'entendre partout, sur Instagram, dans son morceau à lui. Et j'arrivais pas à trouver, du coup, le sample qu'il avait utilisé. Et donc, après, j'ai découvert que c'était 113, etc. Et après, en faisant mes recherches aussi, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était lui-même un sample d'un artiste algérien, un chanteur algérien. Et donc du coup, c'était intéressant de voir un petit peu que c'était un sample d'un sample et un remix d'un remix. Et donc du coup, ça me faisait aussi penser au fait que, vous voyez, du coup, en 2016, c'était vraiment pas monnaie courante d'avoir des sonorités, on va dire, maghrébines, orientales, dans le rap, et que j'avais vraiment pas l'habitude, en tout cas moi, quand j'écoutais, d'entendre ces mélanges entre du coup du hip-hop et des sonorités orientales. Mais je me suis rappelé qu'il y avait un autre genre qui avait déjà utilisé ça quand même bien vachement. Et ce genre, en fait, du coup, c'est le R&B. Et dans le R&B, l'artiste auquel je pense directement, qui maîtrisait ça à fond, qui a vraiment bercé toute notre génération par rapport au R&B, c'est Timbaland. Timbaland, c'est un gros producteur qui a fait les morceaux de Aaliyah, de Missy Elliott. Il a fait aussi d'autres rappeurs comme Eminem. Et donc, du coup, lui, il avait vraiment toute cette force et il avait vraiment bien trouvé en prenant, je pense qu'il avait pris un sample d'une chanteuse indienne. Et il en avait fait le morceau Indian Flu. Oh. le son il t'envoûte un petit peu. Mais c'était pas le seul en réalité à faire ce, à prendre cette fibre là, à faire un mélange un petit peu inhabituel. Il y avait aussi d'autres artistes comme Aliyah qui avait pris pour son morceau More Than a Woman, donc qui avait pris un sample d'une chanteuse syrienne et elle en avait fait quelque chose de d'assez incroyable. Mais surtout, ce qui était sympa aussi, c'est que, voilà, je vous ai cité Timbaland, Aliyah, mais il y en a bien d'autres aussi. Il y a aussi The Pussycat Dolls avec leur son Buttons, et j'en passe. Donc ça veut dire qu'à l'époque, et du coup, début des années 2000, c'était assez facile. Mais dans le rap, c'était quelque chose d'inhabituel, et surtout dans le rap français. Parce qu'en réalité, maintenant, quand j'y repense, avec un peu plus de recul, je sais qu'il y a plein d'artistes qui ont un petit peu joué sur ce côté un peu plus différent, comme Rally, comme Dime, producteur comme Idem qui avait fait son projet cette année qui s'appelle Coup de Feu Rue de la Paix, où il utilise du coup ces fibres-là avec plein d'artistes. Il y a aussi Rally dedans, il y a Jossad. Et du coup, j'aimais beaucoup voir cette dimension-là maintenant, malheureusement, mais à l'époque, c'était pas commun. Et donc du coup, quand 8 a ramené ça, c'était assez difficile. Surtout que je considère en général, quand je vois un peu le premier projet d'un artiste, c'est un peu l'équivalent d'une carte de visite. Ça veut dire que les gens vont te découvrir avec ça, que les gens vont se fier à ce que tu fais avec ce projet-là. Et donc, tu dois tout donner. Et la 8, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment tout donné. Il a rajouté sa touche, on va dire, personnelle, en se donnant déjà à l'époque certaines libertés qui n'étaient pas forcément communes à l'époque. Parce que, enfin, quand j'y repense, en 2015, ouais, bah, y avait quoi, Damso, Hamza, et il y avait un style précis, tu vois. Tu avais de l'ego trip, tu avais plein de choses différentes. Mais ça restait quand même assez proche, du coup, des codes du rap. Mais là, du coup, avec lui, c'était différent. Mais ce qu'il avait rajouté encore plus de différent et de spécial là-dedans, c'est son côté électro. Donc, comme je vous avais dit, évidemment, avec le projet Digital Night, il avait déjà donné un petit peu son énergie. Et il l'a rajouté, clairement, il l'a conservé dans ce projet donc d'Anaba, en lui donnant une touche beaucoup plus singulière pour que ça fasse un petit peu sa marque de fabrique. Et là, vous vous dites peut-être, oui, c'est bon, il va attendre 2 ans, il va vraiment prendre son temps pour sortir sa deuxième mixtape. Mais non, pas du tout. Le type a quand même sorti son projet quelques mois plus tard, donc en 2017. Et il va le sortir le 28 avril 2017, je pense. Et ce sera son deuxième projet qui s'appellera Dawa. Là, on entre dans la phase 2. On est face à un style complètement différent. Donc je vous avais présenté du coup les sonorités orientales, le hip-hop qu'on gardera toujours. Mais là, ce qui va un petit peu apporter de plus, c'est un changement de perspective. Il va plus se focaliser sur des artistes américains, bien sûr, mais pas des années 90, mais des années 2010. Et on ressent aussi un élément en plus qui va rajouter, qui sera du coup de la nonchalance, un peu de désinvolture, un peu le côté blasé, qui sera un élément qu'on va vraiment garder dans toute la discographie de 8. Enfin, quand j'écoute ses projets maintenant, je me rends compte qu'il a vraiment gardé ce côté un petit peu blasé comme ça, ce qui fait un petit peu son charme surtout. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ce changement de perspective, comme je vous avais dit avant, on va le ressentir dans un morceau en particulier qui s'appelle Illumine et qui va vraiment changer tout le monde de 8.
Depuis Tokyo, fuck you depuis Tokyo.
Je vous avoue que quand j'ai commencé à écouter ce morceau, enfin que vous venez d'écouter à l'instant, je me disais, il y a des notes que je ressens et que j'ai déjà entendues quelque part. J'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais après avoir fouillé un petit peu dans ma bibliothèque sur Spotify, je me suis dit, il y a un élément qui me revient fort. Ce morceau, c'était le morceau de Schoolboy Q en feat avec Kanye West qui s'appelle That Part. Et en fait, on est vraiment face, du coup, à un élément. Vous voyez ces petites notes qui donnent un petit peu le côté trap. Et puis après, je sais qu'en faisant mes recherches un petit peu après, je me suis rendu compte qu'en plus, Schoolboy Q, c'était une bonne influence de 8 qu'il aimait beaucoup cet artiste. Et donc, c'est sympa un petit peu de le voir incorporer ses influences dans sa musique. Et en plus, quand j'ai regardé le clip, je me suis dit, mais attends, mais j'ai déjà vu cet élément quelque part. C'est quoi ? On dirait le clip d'ASAP Rocky LSD, qui est sorti du coup la même année. Enfin, non, je pense un an avant, un truc comme ça. Et on voit vraiment les mêmes éléments, le côté ambiance psychédélique, des meubles kitsch. Une ambiance qui est vraiment particulière, mais toujours avec des, on va dire, une touche personnelle de 8. Il y a quand même beaucoup de jeux de matière, il y a des glitchs. Et puis aussi, c'est le premier clip, je pense, de 8 où on le voit dans son clip. Et en plus, en analysant bien l'endroit, on va dire, j'avais compris qu'en fait, c'est un clip qui avait été tourné au Japon, dans le quartier de Shibuya. Donc, c'est un endroit où il y a plein de néons, plein de lumières. Et en me renseignant un petit peu après, enfin, j'avais remarqué qu'en fait, 8 et ASAP Rocky avaient tous les deux filmé clairement à Shibuya, comme j'avais pas dit avant, dans le quartier de Shibuya à Tokyo. Et donc, ils se sont un petit peu réappropriés l'ambiance, toute l'atmosphère qu'il peut y avoir dans cette ville-là, parce que déjà, elle est super éclairée, c'est incroyable, il y a des enseignes partout, il y a plein de couleurs partout. Mais pourtant, on va dire, dans le clip d'Illumine, ils s'étaient vraiment réappropriés tout le style et toute l'ambiance, et on le ressentait très fort, surtout dans ce clip-là, mais malgré le fait que, d'une certaine manière, il est quand même gardé certaines similitudes avec le clip d'LSD. Et avant de clore du coup cette deuxième phase, j'avais envie de parler de la cover, parce que c'est un élément important que j'avais remarqué, en tout cas dans ce deuxième projet, c'est qu'en fait la cover, il y a plein de détails, il y a vraiment plein d'éléments qui rappellent du coup l'ambiance, t'as beaucoup de couleurs, il y a des néons, il y a aussi le fait qu'il y a des enseignes avec du japonais, enfin je veux dire, donc c'est vraiment on rappelle avec du coup le clip d'Illumine. Et du coup, là on voit déjà les techniques de 8 dans le sens visuel, parce que c'est un élément important. Je pense que pour le premier projet Anaba, il y avait très peu d'éléments clippés d'ailleurs. Je pense qu'il n'y en avait pas du tout. Et là, on voit un petit peu son énergie, comment elle se profile tout doucement. Et on voit que 8 commence vraiment à se concentrer du coup sur cet élément-là qui est un peu non négligeable dans le travail d'un artiste. Là, on se retrouve dans la troisième phase de l'évolution de 8 et on est clairement à peine 6 mois après la deuxième mixtape. On est dans le troisième projet de 8 qui s'appellera Onyx. Donc vous avez un peu remarqué qu'il n'a vraiment pas perdu de temps. Vraiment, il a charbonné pendant toute l'année pour sortir une troisième mixtape qui est tout aussi prenante, mais qui, elle, va apporter quelque chose de complètement différent. On va être face à quelque chose de plus émotionnel, de plus fort, qui prend aux tripes. Et on va aussi entrer dans une phase plus sombre. Et quand je dis sombre, c'est vraiment en rappel du coup avec la cover qui est très noire. Il y a une petite rose aussi. Enfin, je veux dire, ça c'était un petit détail pour le kiff. Mais c'est juste que là, on entre vraiment dans une ambiance qui est complètement différente, beaucoup plus pesante. Et quand j'ai commencé à écouter du coup ce projet-là, je me suis dit, il y a un artiste auquel je pense directement. Et cet artiste, c'était Kid Cudi, qui est un petit peu le maître, je trouve, dans ce style-là. En plus, il a une voix incroyable, elle est bien grave, enfin bref. Et donc, du coup, je ressentais beaucoup cette énergie-là. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que dans ce projet-là, on va être face à quelque chose de plus nostalgique, de plus émotionnel et beaucoup de mélancolie. Et quand je pensais, du coup, à ces thèmes-là, ça me faisait aussi penser, plus proche de nous, en France, on a Leilo, qui est un petit peu maître dans cet art-là, qui considère un peu ces éléments comme centraux dans sa musique. Après, c'est pas forcément le seul aussi, il y a plein d'autres artistes qui ont utilisé ces détails-là. Mais j'avais envie d'un petit peu faire un clin d'œil à Leilo, parce qu'évidemment, c'est son poteau aussi, donc voilà, j'allais les rapprocher. Mais donc là, on est vraiment dans un changement d'état, et on le ressent beaucoup du coup dans ses paroles, dans les paroles de 8 qui sont beaucoup plus... Ouais, beaucoup plus intime. Tu rentres dans sa tête, dans ses pensées, t'es face à quelque chose de complètement différent et t'as plus l'énergie que tu pouvais avoir qui était assez dynamique, très trap dans le deuxième projet ou même dans le premier projet qui était vraiment une ambiance... Vas-y, ça te réveillait, tu vois. Et là, tu rentres dans les pensées les plus profondes, les plus intimes de 8 et tu vois que t'es face à quelque chose de complètement différent. Et donc, au terme de ces 3 projets qui sont sortis en l'espace de 2 ans après Digital Night, on est face à 3 phases différentes dans l'évolution de 8. Quand je parlais de phase, c'était vraiment hyper important parce qu'en fait, quand j'ai fait mes recherches, même en faisant ce podcast-là, j'ai réalisé qu'en fait, il y avait vraiment 3 dimensions dans la personnalité de 8. Donc, tu as le premier qui est dans ses origines. Donc, tu es face à des sonorités qui sont plutôt orientales, qui sont très proches du coup des origines de 8. La deuxième phase, tu es face à quelque chose qui est plus proche des États-Unis. Donc, t'avais du coup Schoolboy Q, ASAP Rocky, dans les choix des inspirations, que ce soit par rapport au visuel ou par rapport aux paroles. Et dans la troisième phase, t'es dans une facette beaucoup plus intime, beaucoup plus personnelle de 8, où tu entres clairement dans ses pensées, qu'elles soient sombres ou pas. Et donc, t'es face à une sorte de trinité. Enfin, je vais pas rentrer dans le délire de Lilo, mais c'est juste que t'es face à différents plans qui vont créer vraiment toute l'ambiance de 8. Pour moi, au bout de ces 2 ans après avoir sorti Digital Night, je m'étais rendu compte qu'en fait, avec le peu qu'il nous avait livré, il avait vraiment réussi à bien définir son terrain d'attaque au niveau, du coup, des thèmes qu'il a choisi d'utiliser, de l'univers qu'il a créé autour de ces musiques-là, qui est vraiment digitalement triste, parce que quand je dis digital, c'est évidemment en rapport à l'électro qu'il va beaucoup utiliser dans ses prods. Mais aussi, ce qu'il va apporter en plus, c'est du coup une ambiance qui est assez souple. Et quand je parle de souple, c'est plus flexible dans les ambiances qu'elle va, sur lesquelles elle va pouvoir plus se calquer. Donc on peut autant avoir des ambiances qui sont fortes, très dynamiques, qui sont très énergétiques, mais aussi des cadres un peu plus détendus, plus chill, plus posés, plus doux, même délicats. Et donc ça montre à quel point déjà il y a une flexibilité par rapport à ça. Il y a aussi une polyvalence par rapport au prod qu'il va utiliser, qu'il va décider de prendre et d'autres non. Et ce que j'aime encore plus, c'est qu'il y a un détail super important chez 8, c'est ses textes. Donc il a vraiment des thèmes qui sont assez difficiles. Il va utiliser des thèmes qui sont assez controversés. Il va avoir des paroles qui seront assez crues. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il va vraiment nous montrer son ressenti sans gêne, sans censure, et nous montrer un petit peu sa vision du monde. En tout cas, je trouve assez important dans le rap parce que, on va dire, peu importe comment l'artiste définit un petit peu son rap, il y a toujours un partage de ressenti, la manière dont il va se sentir par rapport à des choses en particulier, des injustices, par rapport à sa meuf, j'en sais rien, mais il y a toujours un partage. Et là, dans le cas de 8, ce qui est intéressant, c'est qu'il est assez audacieux par rapport à ça, parce qu'il ne se met pas de gêne, comme j'ai dit avant. Il n'y a pas de censure, il n'y a pas de limite. Et c'est surtout un partage, en réalité. Et au final, il y a aussi un élément sur lequel j'avais vraiment envie de m'appuyer et souligner surtout, c'est qu'en fait, au fur et à mesure de ces années-là, il a vraiment cultivé des inspirations qui sont complètement différentes. Comme on avait vu au début avec des artistes, par exemple, ça je pense que c'était un artiste qui était aussi algérien, qu'il avait pris en sample du sample du Tonton du Bled 213, c'est qu'il est face à quelque chose qu'il va utiliser dans des samples qui sont assez précis, mais il peut aussi virer vers un autre type d'artiste, comme des artistes américains, enfin je veux dire, c'est assez large. Et ce qu'il va vraiment faire, c'est qu'il va les prendre, il va les utiliser pour créer des projets qui sont super solides et qui sont assez concrets surtout. Et donc pour moi, ça me permet de dire que déjà, comme petit bilan, mais ce que j'aime bien, c'est qu'au bout de ces 2 années-là, après son premier projet, on va dire, comme j'avais dit officiel, c'est qu'il est assez inventif. Il est super créatif et il reste assez surprenant, peu importe les projets qu'il va nous présenter. Maintenant, on va pouvoir enfin plonger dans le vif du sujet. On va passer à mon analyse, on va dire le moment que j'attendais vraiment très fort. Mais on est face du coup au projet que j'ai choisi de prendre dans la discographie de 8 qui s'appelle Neo, qui est pour moi, comme je vous avais dit, un projet, mais pas forcément un projet parce que je sais qu'il est peut-être catégorisé comme un EP, mais vu l'étoffe de ce qu'il nous livre dans ce projet-là, je me suis dit ça peut pas être un EP ni mixtape. C'est assez précis, il y a une chronologie, il y a un fil conducteur, et donc je le considérais beaucoup plus comme un album. Et aussi, ce que je voulais absolument revenir, et ça c'est un petit peu un détail personnel, c'est plus le fait que je vous ai présenté 3 projets avant de vous présenter cet album-ci, et ils avaient chacun une caractéristique bien précise. Donc dans le premier, on avait les sonorités orientales, donc les samples qui sont plus axés sur l'Algérie ou même le Maghreb. Et donc du coup, on le ressent aussi dans ce projet-ci. Et donc du coup, on voit qu'il garde encore cette même énergie. Dans le deuxième projet qu'il a sorti, qui s'appelle Dawa, on est face à quelque chose de plus américain, de plus trap, de plus fort, qu'on va aussi ressentir ici, dans plusieurs morceaux. Et le troisième projet, qui s'appelle Onyx, on va plus virer du coup sur un élément beaucoup plus émotionnel, qui va aussi garder dans ce projet-ci. Ça, c'est aussi un truc que j'ai oublié de vous dire, que c'était un projet qui sortit en 2019. C'est qu'au bout de ces 4 ans après Digital Night, il a compilé plein de styles différents qu'il a répertoriés et contractés dans ce projet qui est Neo. Donc pour moi, c'est vraiment un vent de fraîcheur. Quand je l'ai écouté au début, j'étais assez surprise parce que je me disais « Attends, mais t'as jamais entendu ça ?» Et même encore aujourd'hui, quand je l'écoute, je me dis « Mais il y a tellement d'intensité dans ce qu'il propose !» Et c'était clairement une tuerie. Bon, évidemment, ça a apparu dans les niches du rap français et du rap francophone, et que ça n'a pas fait autant de bruit, parce que je sais que quand c'est sorti en 2019, j'ai pas forcément entendu ça sur les grandes plateformes ou les grands médias. Mais pourtant, ça n'épargne pas le fait que, franchement, c'est un projet qui est assez puissant. Et aussi, l'élément sur lequel j'avais vraiment envie de revenir et qui, pour moi, justifie un petit peu le fait pourquoi je dis que c'est puissant, c'est parce qu'en fait, tu peux autant avoir des styles, comme j'avais dit avant, dans la souplesse de 8, qui sont super chill, qui sont super détendus, qui sont doux, comme par exemple le morceau d'Alia.
Je vais pas me lever tôt. Aïe, t'es mal à me dire en détail. Aïe, j'ai sali, tu nettoies, je suis trop faille. À deux cadres dans l'espace, merde, ça fly.
Mais tu peux avoir tout l'opposé avec des morceaux qui sont super dynamiques, hyper intenses, comme par exemple le morceau Mamma Mia, qui est un morceau en feat avec Laylo.
Mamma Mia, je t'ai fait danser le meilleur. Mamma Mia, pas le choix, faut que j't'oublie.
Et donc on voit très bien que finalement là, on est face à un mixage qui est complètement à l'image de 8. Donc comme j'avais dit, il se met pas de limites. Il est un peu anticonformiste. Il se fait un petit peu son kiff en se disant que ouais, ben si j'ai envie de mettre des trucs comme ça là-dedans, ben ça aura aussi sa place et que ça restera aussi cohérent et ça fera pas forcément tâche. Et aussi, un élément sur lequel j'avais vraiment envie de revenir, c'est le fait que niveau décor, parce que c'est un projet pour moi, je vois un peu le projet dans son ensemble. Donc tu as autant les prods, les paroles, mais t'as l'univers autant dans les prods qu'on peut ressentir, comme par exemple des instruments particuliers ou des sonorités ou des tons. Et là, ce que j'aimais bien, c'est que t'étais face à beaucoup de références à des films. Et en pensant aux films, j'ai vraiment beaucoup plus pensé au fait que t'avais vraiment deux types de films en particulier. D'un côté, t'avais le monde de la science-fiction, du futuriste, avec du coup un rappel à Matrix et évidemment à Neo. La raison pour laquelle il a choisi de prendre Neo aussi, je pense que c'est un peu lié. Donc t'as plein de codes, t'as un petit peu des éléments technologiques, t'as de la 3D, surtout dans le visuel, t'as des glitches autant dans l'audio que dans le visuel aussi, dans les clips. Et t'as un rapport aussi à l'espace, à tout ce qui est aérien. Et quand je pensais à ça, je m'étais dit « Ouais, mais ça prend tout son sens. » Enfin moi, en général, je sais pas pourquoi, dans ma vision un peu de la science-fiction, t'as un petit peu un rapport à tout ce qui est hors du monde. Et donc pour moi, l'effet espace paraissait un peu logique. Et en plus, ce qu'il a rajouté comme élément qui pouvait un peu renforcer ce côté futuriste, c'est le côté voix mécanisée avec l'autotune. Et d'un autre côté, t'avais d'autres thèmes qui sont un petit peu plus doux. T'as le côté du coup des thèmes imaginaires, très fantastiques. Et ça me faisait vraiment beaucoup penser au monde féerique, un petit peu au film de Tim Burton. Enfin, il y a un côté qui me paraissait très proche comme ça, où vous voyez, enfin, vu que je suis un petit peu adepte des films de Tim Burton, ça va un petit peu être biaisé, mais... Du coup, t'as un côté assez féerique, mais presque lugubre, mais pourtant qui reste quand même assez froid. Mais t'as toujours une ambiance qui est assez fantastique, pourtant. C'est un peu morbide aussi, je vous avoue. Quand vous regardez les films, c'est vraiment un peu tout ce qui est l'antithèse de Disney. Donc vous voyez, un peu tout ce qui est poli, très lisse, très propre. Justement, avec Tim Burton, il a ajouté quelque chose de complètement différent, d'assez subversif. Et donc je trouvais ça sympa de le ressentir, même chez 8, quoi. Le deuxième élément que j'avais vraiment envie de présenter maintenant... C'est le flow de 8. Quand je parle de flow, je parle un petit peu de tout ce qui tourne. Vous voyez un petit peu l'aura qui plane autour d'une personne. Enfin, moi, quand je pense à ça, je pense beaucoup à tout ce qui est dans les animés, et surtout à l'animé en particulier de Hunter x Hunter, je pense, avec le truc qui plane autour là, un petit peu fluo comme ça. Et donc, c'est clairement l'aura, donc tout ce qui va dégager. Et le personnage de 8, c'est vraiment un mec qui vit un petit peu dans un délire cyberpunk, rockstar, comme ça, qu'on ressent très fort, même dans l'attitude de 8 dans ses clips. Il a une dégaine assurée et il se laisse pas faire. Mais pourtant, ce que j'aime encore plus donc dans ce flow qui est assez original, c'est le fait d'avoir du coup une souplesse dans la voix de 8. Parce que c'est clairement tout ce qu'il va faire. Enfin, ça va un petit peu tout déterminer chez 8. Parce que je considère en tout cas, par rapport aux artistes, que 8, surtout lui, il a une voix qui est super, super reconnaissable. Genre elle est un petit peu aiguë, pourtant elle se calque avec des morceaux qui sont plus chantants, un peu plus vibrants ou... Beat se donne un petit peu des aises qui sont un peu plus différents de ce qu'on peut entendre dans le rap d'habitude. Et on l'entend surtout dans un morceau en particulier qui s'appelle « Sèche tes larmes ».
Yeah, yeah.
Cherche-la, laisse-les-moi. Cherche la main.
Malgré le fait qu'elle soit aiguë, elle peut autant être forte et intense avec des morceaux comme par exemple Mamma Mia. Et quand je parlais du coup de la voix qui est un élément super important chez les artistes, et quand je pense à ça, je pense toujours au même artiste à chaque fois, c'est l'artiste West Side Gunn, qui a une voix qui est un petit peu criarde comme ça, il a toujours le même ton, il a un peu le même rythme à chaque fois. Et du coup, quand j'ai découvert Benjamin Epps, qui quand il a débarqué, je pense l'année passée ou il y a 2 ans, j'étais face à quelque chose, enfin je me disais, c'est clairement du West Side Gunn, mais en français quoi. Donc c'est toujours hyper déterminant parce que ça permet d'identifier les artistes et ça je pourrais en citer plein. Enfin je veux dire, c'est comme par exemple, on vous met un son de Snoop Dogg, vous allez d'office le reconnaître. Mais donc en fait pour moi, la voix c'est ce qui va tout déterminer et ce qui va rajouter encore plus de bonus du coup au flow. Et aussi du coup malgré le côté un peu électro que 8 va beaucoup utiliser dans ce projet là, il va quand même garder une vision qui est assez imaginaire et qui se rapporte toujours au côté très fantastique, très féerique. Qu'on ressent aussi dans des morceaux comme par exemple Comment, surtout dans un détail au tout début qui est du coup ces petites notes de harpe. Et d'un autre côté, elle peut autant être calquée avec des morceaux comme Aller sans retour qui est beaucoup plus proche du coup du style futuriste. Et avant de s'attaquer directement à l'analyse de l'album, j'avais quand même envie de revenir sur un point hyper important chez un artiste, en tout cas quand je l'écoute. Je fais toujours attention de voir si j'arrive à déceler les influences dans les morceaux. Et c'est ce que j'ai réussi à faire en tout cas par rapport à Witt, parce qu'en fait j'ai vraiment remarqué chez lui qu'il avait un spectre musical super large. Mais quand je vous dis super large, ça veut dire que tu pouvais autant avoir des artistes comme Kanye West, Schoolboy Q ou même encore Travis Scott, donc qui sont assez classiques parce qu'on les connaît. Mais aussi se calquer sur d'autres artistes, même des Européens, comme par exemple Rosalia, qui est une artiste qui lui ressemble hyper fort dans des points en particulier sur lesquels je vais revenir un peu plus tard. Et du coup, je trouvais ça quand même assez sympa de voir qu'il faisait un condensé de plein d'artistes qui sont chacun hyper uniques dans leur style, qui ont réussi à se forger une identité musicale super précise, qui ont beaucoup de poids aussi dans le game, mine de rien. Et donc du coup, ce que j'aimais bien, c'était de le voir un peu créer un petit peu son image, son identité musicale, à base de ces artistes qui sont super talentueux par eux-mêmes, quoi. Et en plus, l'élément que j'aimais beaucoup chez lui, c'est qu'il met hyper fort à l'honneur ses origines algériennes, surtout en particulier, dans son timbre de voix. Mais vraiment, quand j'ai commencé à penser à cette mise à l'honneur, ça me faisait penser à d'autres artistes aussi. Cette année, on a eu Tiakola, qui a vraiment tapé fort avec plein de sonorités. Il a fait un album, La Mélo, je pense qu'il était incroyable. On l'a entendu partout cette année. Mais ça me faisait aussi pensez au fait que, voilà, il y a Tiakola, il y a Damso, il y a Niska, il y a plein de rappeurs qui sont congolais et qui incorporent parfois des éléments dans leur musique, que ce soit des instruments ou des styles de prod. Et ça me faisait vraiment beaucoup penser, surtout en particulier à Damso, qui, je pense, dans son album Ipséité, avait fait le morceau Kin Label, où c'est clairement aussi après dans les textes, je vais pas commencer à rentrer dans les détails, je sais très bien que niveau instrument, il y avait du coup la guitare électrique. Et ce qui est sympa, ça veut dire que de cette manière, tu peux déjà toucher une audience qui est super large. Donc ça peut être autant en Europe qu'en Afrique. Parce qu'en Europe, du coup, tu as la diaspora africaine qui est un peu étendue en France, en Belgique, en Suisse. Et donc du coup, tu peux toucher déjà ces auditeurs-là. Et puis d'un autre côté, tu as aussi les auditeurs qui se retrouvent encore au Congo, qui peuvent écouter ça, ou d'autres pays. Et donc du coup, tu peux toucher toutes les personnes qui sont séduites ou qui s'identifient du coup à cette musique-là. Et donc ça, pour moi, je trouve que peu importe l'artiste, peu importe les sons qu'il va pouvoir incorporer dans sa musique, le fait d'apporter du coup cette richesse avec d'autres cultures, ça veut dire que déjà d'une certaine manière c'est tout bénef pour toi parce que tu touches un public qui est vraiment large et pour le cas de 8 c'est ce qu'il a fait et encore d'autres avec Rosalia aussi, elle a réussi à toucher d'autres personnes et même te faire découvrir des sonorités que tu n'avais peut-être pas entendues ailleurs. Mais ce qui est encore plus fort et que j'ai vraiment fort remarqué qui m'a directement fait penser à Rosalia, c'est qu'il a réussi à faire un mélange entre des styles qui n'avaient rien à faire ensemble. Donc comme je vous avais expliqué avec Anaba, ce qui était précis, c'est qu'en fait, il mettait des sonorités qui étaient improbables quand il a pris Tonton du Bled le remix. Et ça me faisait directement penser, du coup, dans ce projet-ci, au morceau Sim, où on ressentait vraiment que son timbre de voix, il était vraiment... Il y avait un détail qui me faisait penser à ce mélange-là. À ses origines, clairement, tu vois, où t'avais vraiment pas une manière de rapper comme tu pourrais entendre habituellement, c'était presque chanter en fait, en réalité.
Elle m'a donné son hymne dans la cime, j'ai ça. Petit à petit, je compte plus les souvenirs que j'efface. Petit à petit, j'ai rompu ce qui me...
Et en plus de ça, il y avait vraiment un élément sur lequel j'avais vraiment envie de parler, c'est qu'en fait, il y avait une grosse versatilité au niveau des styles. Donc d'un côté, je pensais beaucoup au style du flamenco électronique, qui me faisait vraiment beaucoup penser à El Malquerer, qui est l'album de Rosalía qui est sorti en 2018, où elle mélange elle-même du hip-hop avec du coup des sonorités plutôt traditionnelles. Je sais qu'elle avait utilisé beaucoup le flamenco, les bulerías, enfin bref, il y a plein de choses qu'elle a utilisées, et c'est pour ça que ces deux artistes me paraissaient très proches. Puis d'un autre côté, t'avais aussi la trap alternative, qu'il appelle du trip-hop aussi, je sais très bien, j'avais entendu ça dans le morceau d'Alia justement. Où ben, on voit très bien qu'il a un flow blasé encore, la même attitude qu'il avait et qu'il avait développée dans sa deuxième mixtape, et on voit très bien qu'il commence à prendre ses marques. Alors maintenant, on va pouvoir entamer la première partie de la chronique qui va plus se concentrer sur les paroles. Je vous avoue que lyricalement parlant, ça a été assez facile de déceler un peu le message, mais il y a surtout un premier élément qui m'est venu directement à la tête quand j'ai écouté les paroles, c'est surtout le fait que Buit va vraiment construire tout son personnage comme un personnage qui est assez rebelle, anti-société, qui n'arrive pas à se voir dans un monde qui trouve corrompu, inégal et qui se base sur l'enrichissement personnel, surtout au détriment de la misère des autres. Et on le ressent beaucoup dans ces quelques lignes du morceau Aller sans retour. Pourtant, on est d'accord que si 8 se définit comme un personnage qui n'a pas du tout envie d'être associé avec le monde du capitalisme, il ne devrait pas du tout adhérer aux valeurs de cette société-là. Mais pourtant, il est quand même conscient qu'il y a un élément sans lequel il ne pourrait pas avancer, sans lequel son travail ne serait pas du tout aussi performant qu'il croit. Et cet élément, en fait, c'est l'argent. Et ça, on le ressent beaucoup parce que j'ai compris, en réalité, et ça, c'est par rapport à plein d'artistes, que, en tout cas dans le cas de 8, donc clairement, l'argent, c'est le moteur de son travail. Enfin, clairement, sans l'argent, il ne pourrait pas avancer. Parfois, ça prend tellement de place que ça dépasse même d'autres plans de sa vie. Surtout du côté des meufs, mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais surtout, ça veut dire qu'on voit très bien que du coup, toute sa tracklist, elle est basée et clairement bourrée de plein de références à son amour pour l'argent. Et c'est quand même assez paradoxal parce que, comme je l'ai dit, il y a un rejet, mais pourtant, il sait très bien que sans ça, il ne pourrait pas avancer. Et surtout, ça, c'est un élément qu'on ressent beaucoup dans ces quelques lignes de Bella.
De l'élan pour aller au sommet de la montella. Sans le bif, une vision restreinte. Sans le bif, un espoir éteint. J'amène un bonheur en gesta, même si la peine déteint.
Pour le troisième point, on va plus se concentrer sur les meufs. Et comme je vous ai dit, 8 va considérer presque sa musique comme quelque chose de tellement important que ça va vraiment prendre de la place sur d'autres plans de sa vie, et surtout du côté des meufs. En plus de ça, il va vraiment se tirer une balle dans le pied parce qu'il va vraiment mettre en avant une attitude qui est vraiment très peu impliquée, où il a vraiment pas envie de s'engager. Et surtout, c'est comme s'il voyait l'intimité comme quelque chose qui allait détruire sa créativité, comme s'il allait plus bosser, et que ça allait même l'empêcher de pouvoir s'avancer professionnellement. Et donc de cette manière-là, 8 n'envisage absolument rien. Le seul élément qui va l'animer, c'est la musique, et surtout le bénéfice financier qu'il pourra en tirer. Et c'est surtout le morceau Bella qui va bien démontrer cet état d'esprit.
Elle parle d'une histoire de love, mais je dois faire mon pain maintenant. Même nos cœurs sont teintés là, même nos cœurs sont teintés.
Bon là, vous avez un petit peu cerné le personnage. On est face à quelqu'un qui est très solitaire, logiquement, vu qu'il renonce à toutes les meufs. On est face aussi à quelqu'un qui est comme une sorte d'éternel insatisfait, dans un monde qu'il ne comprend pas forcément, enfin bref, ça commence à devenir assez poétique là. Mais dans tous les cas, on est face à quelqu'un qui n'arrive pas à se retrouver dans un monde qu'il ne comprend pas. Et donc le seul moyen du coup pour s'évader de ce monde qui ne le comprend pas, et qui ne veut pas comprendre aussi, c'est se réfugier dans la nuit. Et du coup pour 8, la nuit c'est vraiment un synonyme de refuge, c'est un espace neutre où il peut vraiment s'exprimer, là où il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de limites. Et on voit très bien qu'en fait ça le force aussi à être encore plus solitaire, il peut éviter toute interaction possible. Et en plus ça me faisait penser aussi en réalité à plein d'artistes qui considèrent aussi la nuit comme un moment un peu fertile pour créer tout ce qu'ils veulent, puis t'as tout le temps, il fait calme, il n'y a pas de bruit, et t'es vraiment dans tes pensées. Et le morceau qui me fait vraiment penser à ça, c'est le morceau Le Soir, avec cet extrait. Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième partie de la chronique, qui pour moi est le moment préféré, enfin, parce que j'adore, c'est un peu le moment où je peux un peu plus m'exprimer, ça devient un peu plus visuel aussi. On va dire depuis le début, 8. J'ai remarqué qu'en fait, il a toujours été hyper, hyper investi dans tout ce qui est visuel, que ce soit par rapport au clip, par rapport au cover, etc. Surtout qu'en plus, il était entouré TBMA, donc on va dire qu'il était bien épaulé. Et pourtant, il arrivait bien à définir son personnage comme quelqu'un d'assez singulier, d'assez seul aussi. Quand je vois ses clips, ça dépend quel clip. Soit il est seul, soit il est entouré de son crew. Mais ce que j'aimais bien, c'est de voir que aussi, il était assez fort niveau mise en scène, niveau transition, même s'il n'avait pas forcément de moyens. Enfin, quand je repense du coup à son premier clip, qui est le morceau Cloud, je pense, qui est d'ailleurs son premier morceau sur YouTube, ben, il n'y a pas forcément de moyens, mais pourtant, il met quand même du sien. Il ne se laisse pas quand même forcément abattre parce qu'il n'a pas forcément de moyens. Il se débrouille. Et puis après, il y a aussi le deuxième morceau, Illumine, qui sortira du coup dans le deuxième projet d'Awa, où ben, on voit très bien qu'il expérimente des choses, il essaye de voir un petit peu sur quoi il peut jouer. Et ce que j'aime bien, c'est que voilà, certes, il n'a pas forcément de moyens au début, mais il fait avec ce qu'il a. Et après, évidemment, avec son évolution, en allant un peu plus loin dans les années, on voit très bien qu'avec TBMA, il nous a sorti des clips qui étaient vraiment époustouflants, qui avaient plein de force, et on le ressent très fort. Un deuxième élément aussi sur lequel j'avais vraiment envie de revenir, c'est le fait que du coup, dans ses clips, dans le visuel qu'il va un peu construire autour de son personnage, il va vraiment beaucoup revendiquer des influences très précises. Et surtout, celle qui me vient directement à l'esprit quand j'y pense, c'est du coup un lien direct avec le Japon et surtout avec la culture artistique japonaise et les mangas en particulier. Bon, après, tout le monde sait que dans le rap en général, enfin moi je vais plus me contenter de parler du rap, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui se sont fort inspirés des animés, des mangas, parce qu'évidemment ça a bercé plein de générations, ça a bercé autant des gens qui sont nés il y a 40 ans avec, enfin je pense que le plus vieux que je connais c'est le Chevalier du Zodiac avec, enfin je veux dire c'était un truc, what the fuck, il y avait beaucoup de costumes, et ça a bercé plein de générations, comme maintenant quand je pense à plein de rappeurs, ben, je pense par exemple d'abord en France on avait le collectif de l'Ordre du Périph qui avait sorti leur projet. Je pense que c'était le Vogue Mairie qui était sorti en 2017. Ils avaient pris clairement le Vogue Mairie de One Piece. Ils l'avaient mis en cover. Ils avaient un petit peu joué avec les couleurs pour que ça fasse un petit peu plus leur style. Et ils l'avaient sorti comme ça. Et puis après, on a aussi, plus aux États-Unis, on a Kanye West avec le fait qu'il ait pris plein de séquences du film Akira, qui est un film qui est sorti en 1988, qui date bien, qui a été réalisé par Katsuhiro Otomo, où il récupère plein de séquences du film. Et il le met du coup dans son clip pour Stronger. Donc c'est vraiment, ça a bercé plein de générations. Et du coup, ça c'est un truc qui est assez non négligeable. C'est autant les animés du coup pour ce cas-ci, parce que je sais qu'en plus la France c'est genre le deuxième consommateur de manga au monde après le Japon. Mais pour revenir du coup à 8, ce qui est aussi chouette avec lui, c'est qu'il a mis à l'honneur un manga qui est parti trop tôt, franchement, ça s'est terminé trop vite. Enfin, on n'était pas prêts. Et du coup, ce manga-ci, c'est le manga Berserk, qui a été réalisé par Kentaro Miura. Je pense que, franchement, c'était un manga incroyable, qui était super bien dessiné. Et il l'a clairement mis à l'honneur dans deux clips, qui est d'abord le premier clip de Dahlia, qui est dans cet album-ci, dans l'album Neo, et dans un autre morceau, qui s'appelle Indigo Child, qui lui est vraiment hors projet, où il va clairement prendre des séquences du film de Berserk pour en faire son clip, quoi. Puis dans un autre registre qui prendra tout son sens aussi, c'est que du côté futuriste, il y aura aussi beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est code de la science-fiction et des images aussi. On voit très bien que dans certains clips qu'il va utiliser, je pense que dans le premier clip auquel je pense, c'est le clip de Mamma Mia avec Leilo, où déjà ils sont encore au Japon, il y a vraiment un rapport aussi toujours au Japon. Et ben, t'as des femmes, je pense que quand j'avais vu, j'étais vraiment choquée, j'avais vu des hologrammes de stripteaseuses dans un casino avec des Japonais. Ça paraissait incroyable. En plus, le clip qui était chouette, il était un petit peu filmé à la casino de Martin Scorsese. Et du coup, t'avais vraiment un côté très cinématographique aussi. Puis dans un autre cadre aussi, avec le morceau Dahlia, qui est beaucoup plus simple, on va dire, où ben, t'as toujours ce rappel, du coup, à tout ce qui est science-fiction, avec des hologrammes encore, avec des jeux de matière, avec le fait que tu as aussi un rapport à l'espace au début. Et donc du coup, on voit très bien qu'il forme bien son visuel avec des éléments très précis. Et donc au bout du compte, on est face à du coup deux choix de direction artistique qui sont complètement différents, mais qui restent quand même assez harmonieux avec son style. Ça veut dire que sa mentalité autour du rap, et en tout cas autour de ce projet-ci, c'est un monde assez onirique, donc autant dans le fait que ça soit par rapport à la science-fiction, donc c'est vraiment très fictionnel, ça n'a rien de réel, et autant dans le fait qu'il prend des éléments aussi assez imaginaires, dans le fait que ça soit presque féerique, mais ça aussi, ça reste toujours de la fiction, finalement. Et donc, finalement, ce monde onirique, donc de rêve un peu décalé de ce monde, ça va un petit peu planter le décor de ce projet-ci. Malheureusement, on touche à la fin de ce podcast. Je pensais pas que ça allait passer aussi vite, en réalité. Mais pourtant, ça restera quand même assez joyeux. On va passer du coup aux bulles capsules. Les bulles capsules, je vais un petit peu revenir rapidement sur ce que c'est. Pour moi, c'est un moyen de pouvoir vous partager un morceau ou plusieurs morceaux que j'ai aimés dans le projet, en vous expliquant pourquoi j'ai aimé, mais c'est surtout très subjectif. Et donc, dans ce projet-ci, je vous avoue que ça a été quand même assez difficile parce que je considère que tous les morceaux dans ce projet, ils ont une âme, ils ont un truc sur lequel j'aurais pu parler pendant des heures. Mais je me suis quand même dit, vas-y, faut que tu te ressaisisses. Et après, j'ai repensé, en fait, en réalité, il y avait un morceau, donc pas arrêter de parler, même dans ce podcast-ci, si vous avez vraiment fait attention, c'est le morceau d'Alia, qui pour moi regorge d'éléments à aborder. Franchement, il est... Ah, je vais juste vous expliquer. Donc déjà, premièrement, l'élément, c'est le fait qu'il y a énormément de sonorités, de rythmes qui sont super proches de Travis Scott. Il faut savoir que je suis une grosse fan de Travis Scott, vraiment, genre de ouf. Surtout qu'il y a le même flow. Mais aussi, dans le choix des gimmicks, on ressent aussi qu'il y a une certaine force. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un flow maîtrisé. Il y a aussi un rythme qui est fort saccadé. Et ça me faisait aussi penser au fait que ce morceau, il a une chronologie qui est assez précise, qui est presque logique. Vous voyez, quand vous écoutez un morceau, il y a plusieurs parties dans le morceau. Il y a les couplets, il y a le bridge, et ensuite... vous avez aussi le refrain. Donc tout est clair. Mais dans le morceau d'Alia, ce que j'aime bien, c'est que tout se suit. Tout est logique. Mais ce qui est encore mieux, c'est que la prod que 8 a utilisée dans ce morceau-là, c'est une prod qui est super planante. Mais elle me fait le même effet que quand vous écoutez un morceau où il y a le beat qui... à un moment, il va y avoir la chute et c'est super intense. Et bien ça, tu le ressens sur tout le morceau. Et ça, c'était un truc que je me suis dit, franchement, il est vraiment fort. Et en plus de ça, je me disais, il y a aussi une bonne dose de percussion, de force et de basse dans la prod qui fait que j'aimais beaucoup ce morceau. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi des petites notes dissimulées, des trucs cachés. Et surtout un piano, enfin des petites notes de piano qu'on peut entendre comme ça, qui se cachent, qui sont un peu bloquées sur le même refrain, qui fait que ça donne un petit peu un côté imaginaire, fictif, très féerique en fait. En plus de ça, c'est l'un des seuls morceaux qui est clippé dans le projet, à part Mamma Mia. Et je me suis dit, franchement, il y a plein de séquences qui sont incroyables. Et j'ai aussi oublié de vous dire, quand du coup je parlais avec le lien avec le Japon, et le fait qu'il y a aussi des hommages à Berserk, surtout dans ce morceau-ci, je vous ai pas dit pourquoi je pensais à Berserk, mais en fait, quand j'ai regardé le film, je pense que ça date d'à peine un an, j'avais regardé ça il y a pas longtemps en plus, j'avais remarqué qu'en fait, quand j'ai regardé le clip de Dahlia, c'est qu'il y avait une scène qui était identique au film. Et c'est en fait un moment où je pense que c'est Guts qui vogue un petit peu là, dans un espace un peu lourd, très étouffant comme ça. Et on le ressentait pareil dans le début du morceau de Dahlia, avec du coup le soleil qui est au fond, qui est ardent, qui est fort, qui est puissant. Et on voit la silhouette de Whit qui déambule comme ça, on sait pas, au gré du vent comme ça. Et du coup, moi, je me suis dit, oh putain, ça c'est trop fort aussi. Et en plus de ça, ben, le clip, il est rempli de plein d'éléments. Enfin, je veux dire, que ça soit par rapport à plein de détails. Quand j'avais dit avec l'hologramme aussi, il y a plein de rapports aussi à l'électronique. Et aussi, en plus, il a une veste qui est incroyable. Bref, il est bien sapé aussi. Il y a des détails qui sont super importants. Et donc finalement, pour moi, je considérais en plus que ce morceau, il était très représentatif de 8, dans sa manière de voir un peu le visuel. Il se met pas de limite. Il peut autant être dans le côté casino à la De Niro que dans un style presque imaginaire en fait avec Dahlia. Et c'est vraiment pour moi aussi la raison pour laquelle j'ai choisi de parler de 8, parce qu'il regorge de plein de choses. Il est fort sur plein d'éléments. Il est complet, il a toutes les cartes en main, il est capable. Et depuis qu'il est arrivé, donc depuis son premier projet avec Laylo, avec Digital Night, il était déjà assez bourré d'énergie. Il n'avait pas envie de lâcher l'affaire. Et là, franchement, je me suis dit, avec toutes les phases que je vous ai présentées avec Anaba, avec Dawa et Onyx, il était à chaque fois précis. Il n'allait pas comme ça en se disant, ouais, bon, je ne sais pas trop ce que je vais faire et tout. Tout était cohérent. Et même quand j'ai vu, en plus, en écoutant Neo, j'ai retrouvé à chaque fois les mêmes éléments. Donc, il restait assez cohérent et régulier aussi dans sa manière de présenter sa musique. Et c'est pour ça que moi, quand je l'ai écouté la première fois, je me disais, franchement, il amène un truc frais. Il amène une ambiance proche de Laylo aussi, que j'aimais déjà bien à l'époque. Puis, il reste aussi assez subversif. Il est, en plus, assez large niveau inspiration. Donc, il peut autant avoir des styles qui sont plutôt... avec des artistes algériens qu'avec des artistes européens ou même américains. Il reste un petit peu souple comme il veut. Il se fait plaisir avant de faire plaisir du coup à son audience. C'est d'abord lui qui kiffe et après, tu prends ou tu prends pas en réalité. En plus, vraiment, dans ce projet-là, j'ai vraiment remarqué qu'il a créé tout un univers autour de son personnage et que ça paraissait vraiment très harmonieux et très pertinent surtout. Et ce que j'aime aussi encore plus et qui est super intéressant avec 8, c'est qu'il bouscule tous les codes du rap. Pourtant, il les respecte, hein. Mais il les bouscule quand même pour se les réapproprier, pour créer des projets qui sont novateurs, qui amènent quelque chose de nouveau en réalité. En plus, à l'heure à laquelle je vous parle, là maintenant, il a déjà sorti son 5e projet, qui s'appelle Nos Futurs, qui franchement est un projet qui, quand je l'ai écouté, il était incroyable, autant au niveau des paroles qu'au niveau aussi du visuel, qui était encore plus travaillé que ce qu'il avait fait déjà avec Néo. Et franchement, je me suis dit, maintenant, il est temps quand même d'aller écouter. Même si je peux l'admettre, il est assez difficile niveau style, que c'est pas forcément évident de rentrer directement dans son délire, mais juste pour voir un peu la nouveauté qu'il peut proposer. Et franchement aussi, c'est un peu le but des podcasts, genre c'est un peu un moyen de pouvoir vous partager des artistes que vous connaissez ou que vous connaissez pas forcément, et vous les faire découvrir pour vous amener un petit peu quelque chose de différent. Et finalement, franchement, moi je me suis dit, 8, c'était vraiment l'occasion de pouvoir débuter les chroniques d'une bonne façon. Et on va malheureusement du coup devoir clore cet épisode. J'espère que vous avez apprécié passer du temps avec moi comme moi j'ai apprécié faire ce podcast. N'hésitez pas aussi à me partager votre ressenti par rapport à ce podcast, si vous avez aimé, si vous avez découvert des nouvelles choses. N'hésitez pas surtout à activer la cloche pour pouvoir recevoir la notification du prochain épisode, et on se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de La Cagoule Rose.